Appelez-nous, exprimez-vous. 33 1 53 92 64 40. Muriel Pompol.
Bonjour à tous, l'antenne de RFI vous est ouverte pendant près d'une heure, cet appel sur l'actualité. Et dans un instant, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre, pour mieux décrypter l'actualité à travers le monde. Toutes vos questions sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous contacter au 33 1 53 92 64 40 ou par courriel appel au pluriel @actu@rfi.fr. Dans 20 minutes, nous allons reprendre le débat sur le nouveau code de la famille au Mali. Des associations musulmanes protestent contre ce texte qui a pourtant été adopté à la quasi-unanimité par les députés. Le chef de l'État a entamé de nouvelles consultations et il a décidé de renvoyer le texte en deuxième lecture devant l'Assemblée. Alors que pensez-vous de ce nouveau code de la famille? Doit-il être amendé? Quels sont les points que vous contestez? Ceux au contraire qui vous donnent satisfaction? Le standard est ouvert. Je vous rappelle le numéro 33 1 53 92 64 40 et l'adresse électronique appel au pluriel @actu@rfi.fr. Mais nous commençons donc, comme promis, avec les questions d'actualité. Et on appelle tout de suite Yacouba qui nous écoute à Abidjan. Yacouba, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Alors Yacouba, vous avez une question concernant la prime à la casse aux États-Unis. Allez-y.
Oui, j'ai entendu dire que le président Barack Obama a mis fin à la prime à la casse. Alors j'ai trois questions relatives à cette mesure. La première, je voudrais savoir en quoi a consisté la prime à la casse. La seconde,
oui, allez-y.
Je voudrais savoir quel impact cette mesure a eu sur l'économie américaine. Et la dernière, je voudrais aussi savoir pourquoi le gouvernement a-t-il mis fin à cette mesure.
Merci Yacouba. Alors pour vous répondre, Guillaume Thibault du service économie de RFI est en studio. Bonjour Guillaume.
Bonjour Muriel, bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Alors d'abord, en quoi consistait cette prime Guillaume?
Alors aux États-Unis, le nom de la prime à la casse, c'est Cash for Clunkers, littéralement de l'argent contre votre vieille voiture. Lorsque Barack Obama lance ce projet à la fin du mois de juillet, il y a quelques semaines, le secteur automobile américain ne va pas bien, les aides de l'État n'ont pas entraîné la reprise attendue, les ventes des grandes marques comme General Motors, Chrysler continue de baisser. L'équipe Obama a sûrement vu les effets de la prime à la casse en Europe, notamment en France et en Allemagne. Dans ces deux pays, les ventes de voitures sont reparties à la hausse. Alors, en quoi consistait cette prime? Le deal est simple. Tout acheteur d'un véhicule neuf touche une prime du gouvernement. Aux États-Unis, il faut acheter une voiture moins gourmande en carburant, moins polluante, donc, et envoyer son ancienne voiture à la casse pour recevoir un chèque qui va jusqu'à 4 500 $. Ça fait à peu près 3 100 €.
Alors, le succès de cette prime a été étonnant et a complètement relancé le secteur de l'automobile.
Oui, tout à fait. C'est la seconde question de Yacouba. Le gouvernement de Barack Obama a débloqué dans un premier temps 1 milliard de $ pour ce programme et le succès a été fulgurant. En 5 jours, tous ces fonds ont été utilisés. Les Américains, qui faisaient jusque-là attention à leurs dépenses depuis le début de la crise économique, se sont rués chez les vendeurs de voitures. En moins de 5 jours, plus de 200 000 voitures ont été vendues. Alors devant ce succès, Barack Obama a demandé il y a 15 jours une rallonge de budget. Le Sénat l'a accepté. 2 milliards de $ ont été remis sur la table. La prime à la casse américaine a pris fin lundi dernier, Yacouba, moins d'un mois après son lancement. Et en tout, plus de 700 000 Américains ont profité de cette offre.
Alors, il faut bien dire, Guillaume, que le côté écologique était plutôt secondaire. Et c'est évidemment l'enjeu industriel qui a privilégié.
Alors, pour répondre à la demande, tous les constructeurs américains, Chrysler, Ford et étrangers, Toyota, Hyundai, ont annulé certains arrêts de travail forcés, conséquence de la crise économique. General Motors a même réembauché 1 300 salariés qui avaient été licenciés il y a quelques mois. Alors que tous ces fabricants annonçaient de très mauvais résultats depuis un an, les ventes sont donc reparties à la hausse. Ford annonce par exemple pour la première fois depuis novembre 2007 pour le mois de juillet une croissance de ses ventes et un futur optimiste. Le fabricant devrait construire 495 000 voitures au troisième trimestre. C'est une hausse de 18% par rapport à la même période il y a un an.
Mais finalement, à part Ford, les autres grands constructeurs américains n'ont pas tellement profité de cette prime à la casse.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que la grande majorité des véhicules qui sont partis à la casse, ce sont des 4x4, ce sont des grosses voitures polluantes, c'est la mode américaine. Les constructeurs américains n'ont pas encore fait leur révolution. Ils ne sont pas encore lancés en fait sur le marché des voitures plus petites, plus économes en carburant. Et ce sont donc les spécialistes, les Japonais, qui ont profité pleinement de la prime à la casse aux États-Unis. En tête Toyota, il faut dire qu'un Américain sur 5 qui a profité de l'offre a acheté un véhicule de la marque japonaise, suivent Honda puis Ford.
Alors la dernière question de Yacouba, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement américain à mettre fin à cette mesure?
Alors on l'a dit, ce plan a eu un succès impressionnant. Il a aussi coûté très cher au gouvernement américain. On est en temps de crise. Il est donc difficile pour l'État américain de sortir plus d'argent. Et puis, tous les gouvernements le disent, ces primes à la casse perturbent fortement le marché. Les gens, on le sait, n'achètent pas une voiture neuve tous les 6 mois. La vague des ventes récentes fait que les concessionnaires américains vont voir leurs ventes baisser dans les mois qui viennent. Et pour ne pas déstabiliser un marché qui est déjà complètement perturbé, l'État américain a donc tout intérêt à arrêter cette prime à la casse.
Merci Guillaume Thibault et merci Yacouba de cette question qui nous a permis de faire un point précis sur la prime à la casse aux États-Unis. On va maintenant partir, on va rester à Abidjan d'ailleurs, où on nous écoute sur 97.6 et on va parler à Stéphane. Stéphane, bonjour.
Bonjour Muriel.
Alors Stéphane, vous avez une question concernant la Mauritanie.
Oui, j'ai une question concernant la Mauritanie. En fait, j'ai appris sur la radio du Monde qu'un journaliste mauritanien avait été arrêté et mis en prison pour atteinte aux mœurs. Alors, je voudrais savoir quel est le contenu réel de cet article, qu'est-ce qui dérange tant les autorités mauritaniennes dans cet article, et est-ce vraiment la seule ou bien la véritable raison qui a conduit ce journaliste en prison?
Alors, on va peut-être commencer par la dernière question. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on l'a arrêté? Pour quelle raison est-ce qu'on l'a vraiment arrêté? C'est Marie-Pierre Olfan du service Afrique de RFI qui va vous répondre. Marie-Pierre.
Oui, bonjour Marielle et bonjour à tous. Bah écoutez, ce qui est sûr, c'est ce qu'on sait surtout, c'est qu'il a été arrêté après la diffusion sur son site internet, qui s'appelle Takadoumi, d'un article qui accusait un candidat à la présidentielle, Ibrahim Assar, d'avoir été acheté par le général ou la Abdelaziz. Ibrahim Assar faisait partie, je vous le rappelle, des 3 candidats qui avaient accepté de s'opposer au général le 6 juin avant que cette date pour l'élection présidentielle ne soit repoussée. Et le site internet affirmait qu'Ibrahim Assar avait, grâce à cet argent qu'on lui avait donné, donc pu payer ses 6 mois d'arriéré de loyer et qu'il avait ensuite acquis une maison à plusieurs millions d'oubias. Des photos ont même été publiées sur internet de cette maison. Le candidat n'a pas apprécié, vous pouvez l'imaginer, il a donc décidé de porter plainte et a maintenu sa plainte jusqu'au bout, car la condition pour qu'il la retire, c'était que le journaliste fasse un démenti, ce qui n'a pas été fait. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle il a été arrêté au mois de juin.
Oui, parce que finalement, d'après nos informations, Marie-Pierre, ce n'est pas pour cette raison qu'il a été condamné, mais en raison de publication sur son site internet.
Oui, parce qu'en fait, à la plainte d'Ibrahim Assar, c'était, sans que nous, on le sache en tout cas vraiment, ajouter aussi des poursuites du parquet pour des publications donc sur ce site. Il était premièrement poursuivi pour délit de presse. On lui reprochait d'avoir publié des procès-verbaux concernant des affaires en cours de jugement et pour incitation au désordre aussi. Pour cela, il n'a pas été condamné, car la loi sur la presse ne concerne pas clairement les publications électroniques. Et il était aussi, enfin, poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Il aurait ouvert sur son site une page de débat où on parlait d'éducation sexuelle notamment. Et c'est un sujet tabou en République islamique de Mauritanie. Donc c'est pour ce délit-là, qui est puni par le code pénal et non pas par la loi sur la presse, par l'article 163, qu'il a été condamné. Il risquait entre 2 mois et 2 ans de prison. Il a écopé de 6 mois. Donc voilà, c'est donc pour ces poursuites supplémentaires et non pas pour la plainte du candidat qu'il a été condamné. Parce que pour cette plainte, selon la justice et selon nos informations, il a été acquitté.
Alors 6 mois, c'est une peine assez lourde quand même pour un journaliste.
Oui, évidemment, certains parlent aujourd'hui d'acharnement en Mauritanie. Ils disent qu'on en veut à ce site qui s'est clairement positionné contre l'auteur du coup d'État il y a un an. Donc c'est un site qui s'est mis dans l'opposition depuis un an. Il se trouve que cet auteur du coup d'État, le 6 août 2008, est aujourd'hui président, c'est le général Oulad Abdelaziz. Donc on dit qu'on s'acharne un peu contre ce journaliste, qu'on lui fait payer son attitude ces derniers mois. Et certains évoquent même un règlement de compte entre différentes tribus du pays. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que beaucoup, et même ce candidat à la présidentielle, et même des avocats, ne comprennent pas en tout cas cette condamnation, car au final, toutes les accusations étaient relatives au support Internet, à la presse électronique. Alors, on se demande comment la justice a pu condamner d'un côté et relaxer de l'autre, alors que tout était lié à Internet. Donc l'avocat, en tout cas du journaliste Hanefi, a décidé de faire appel, mais le parquet aussi, parce que lui, il juge que cette peine est finalement trop clémente et qu'elle ne correspond pas aux faits qui sont reprochés aux journalistes.
Merci Marie-Pierre Olfan d'avoir répondu donc à la question de Stéphane qui nous appelait d'Abidjan. On a maintenant une question qui nous vient de Niamey, de Ben, mais Ben qu'on n'arrive pas à joindre au téléphone. Alors je vais me faire l'interprète de sa question. Ben dit, j'ai entendu que le président israélien, alors déjà c'est le premier ministre, israélien Benjamin Netanyahou était en tournée dans certains pays d'Europe. Pourquoi cette tournée maintenant? Est-ce que ça peut avoir un lien avec la pression exercée par les États-Unis sur Israël à propos des colonies juives? Et est-ce que Benjamin Netanyahou n'essaie pas de trouver des alliés sur cette question? Alors on va poser la question à Toufik Benaïchouch. Alors Toufik, pourquoi Benjamin Netanyahou effectue-t-il cette tournée en Europe maintenant?
Oui, effectivement, il essaye d'infléchir la position des grands pays de l'Union européenne. Il s'était déjà rendu en France il y a quelques mois. Là, hier, il a quitté la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il est à Berlin. Il doit rencontrer Angela Merkel. Et votre auditeur a raison. Probablement, il propose à ses partenaires, donc avec qui il discute, que ils acceptent sa proposition. Non pas un gel de la colonisation, enfin la cessation même définitive, la colonisation de la Cisjordanie, comme le demandent les États-Unis. Mais il voudrait trouver un arrangement. Et ce qui se murmure, c'est qu'il propose un gel, donc un arrêt provisoire de cette colonisation, en échange de sanctions beaucoup plus dures contre l'Iran, si vous voulez. On se trouve dans cette position depuis.
C'est ce qu'on appelle un jeu à trois bandes.
Oui, effectivement, parce qu'on se trouve dans cette position depuis l'élection du président américain Obama. Obama a fait des offres de dialogue à l'Iran pour essayer de régler ce problème de la dotation en armes nucléaires de par Téhéran. Il propose donc de dialoguer. Et là, le dialogue est un peu gelé, ralenti, parce qu'on vient d'élire un président iranien, d'ailleurs mal élu, puisque l'opposition récuse cette élection. Et donc, face à cette offre de dialogue, eh bien, on retrouve des pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui ont une position beaucoup plus dure vis-à-vis de l'Iran, qui continuent à réclamer des sanctions tant que l'Iran se pliera pas aux résolutions des Nations Unies. Donc, pour Benjamin Netanyahou, écoutez, il doit faire cette proposition à ses partenaires de l'Union européenne. Écoutez, l'urgence des urgences, c'est l'Iran. Il faut absolument pas que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. Aidez-moi à convaincre, si vous voulez, les États-Unis qu'un gel suffit pour le moment, j'ai la colonisation, en échange de quoi il faut vraiment axer tous les efforts sur l'Iran et non pas sur la résolution du conflit au Proche-Orient.
Pour l'instant, le Premier ministre israélien a annoncé un gel des appels d'offres.
Oui, alors
pour
c'est
la construction
un peu,
de logements.
C'est ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Il propose un gel pour 6 mois des appels d'offres, c'est-à-dire, si vous voulez, de l'aide, en fin de compte, de l'aide que l'État accorderait à ceux aux colons israéliens qui voudraient s'établir sur les terres palestiniennes de Cisjordanie. Voilà. Mais cette offre exclut évidemment toutes les initiatives privées. Or, si vous voulez, l'État aide la colonisation à hauteur de 40%. Le secteur privé, lui, c'est-à-dire des particuliers ou des groupes d'intérêt, eux, financent la colonisation à 60%. Donc déjà, les adversaires de Benjamin Netanyahou lui disent oui, ton offre, elle n'est pas très, très, très importante. Alors, ensuite, il y a le problème de la limitation dans le temps, donc 6 mois et non pas une cessation définitive. Et les Palestiniens, de leur côté, disent il n'est pas question qu'on s'assoie à une table de négociation, qu'on reprenne le dialogue si la colonisation ne cesse pas. Donc les jeux sont en fait un peu bloqués en ce moment.
Et la colonisation se développe surtout à l'est de Jérusalem-Est, si je puis dire.
Alors, il faut regarder une carte. Si vous voulez, vous regardez la carte, vous avez l'État d'Israël, donc, et à sa droite, vous avez ce qu'on appelle la Cisjordanie, donc, qui est un territoire occupé depuis 67, qui est occupé par Israël, non pas annexé, bon. Et puis, vous avez Jérusalem, qui est sur la ligne de partage entre les deux, pour aller très vite. Jérusalem, la partie est de Jérusalem, est considérée comme un territoire occupé, dans un territoire arabe occupé par l'ensemble des Nations Unies, etc. Israël, au contraire, dit non, Jérusalem est une capitale unique et indivisible pour l'État d'Israël, donc pas question de négocier là-dessus. Or, les Palestiniens, il y en a 250 000 qui vivent dans la partie arabe, donc de Jérusalem, en Jérusalem-Est, comptent faire de leur la capitale de leur futur État, Jérusalem-Est. Donc là, déjà, il y a un désaccord absolument insurmontable pour le moment. Benjamin Netanyahou a encore rappelé que dans le cas d'une reprise des négociations, il ne serait pas question de discuter du sort de Jérusalem-Est. Alors, pour revenir sur à la réponse de votre question, effectivement, les Israéliens construisent une ceinture de colonies qui enferme littéralement Jérusalem-Est, c'est-à-dire qui rompt une espèce de continuité territoriale qui sera nécessaire si les Palestiniens veulent faire un État avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc c'est cette ceinture de colonies rompt territorialement, si vous voulez, la continuité entre Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.
Un dernier point, Toufik, Benjamin Netanyahou a une coalition très à droite. Et est-ce qu'il peut faire passer l'idée d'un gel des colonisations par sa coalition?
Alors écoutez, Benjamin Netanyahou effectivement a été élu par... D'abord, il a bénéficié du très fort vote des colons, ce dont on parlait tout à l'heure, et il est à la tête d'une coalition qui est sans doute la plus à droite, qui est même sûrement la plus à droite depuis la création de l'État d'Israël. Et parmi cette coalition, donc, beaucoup de partis plaident pour la poursuite de la colonisation. Donc effectivement, il est gêné aux entournures, Benjamin Netanyahou, c'est un problème, c'est vrai. Lui, il dit à ses partenaires européens, américains, il dit « moi je ne peux pas aller plus loin parce que sinon mon gouvernement va tomber ». Ce à quoi d'autres lui répondent, mais Ariel Sharon, toute la population israélienne était contre le retrait d'Israël de la bande de Gaza, qui était un territoire occupé aussi. Eh bien, Sharon a eu le courage de l'imposer et il a effectué ce retrait.
Un dossier à suivre, un dossier qu'on suit déjà depuis des décennies et sans doute encore pour longtemps. Merci Toufik Benaouchouch et désolé pour Ben qu'on n'a pas réussi à joindre. Nous allons commencer tout de suite la deuxième partie d'appel sur l'actualité. Je vous rappelle que nous reprenons aujourd'hui le débat sur le code de la famille au Mali. Le président Amadou Toumani Touré a renvoyé devant les députés le texte pour une deuxième lecture après avoir consulté des associations puisque nombre d'entre elles se plaignent. De ce texte, n'était pas satisfaite de ce texte. Alors, tout de suite, nous allons appeler Issaka, qui est à Bamako. Issaka, bonjour.
Oui, bonjour, Myriam.
Alors, Issaka, que pensez-vous de ce code de la famille? Est-ce que le président Amadou Toumani Touré a bien fait de le renvoyer en deuxième lecture?
Ah, tout à fait. Je remercie d'ailleurs monsieur le président pour cet acte, pour son souci de la culture sociale. Et puis, je salue en même temps nos députés pour leur courage politique. Franchement, ce nouveau code était vraiment le bienvenu pour le Mali. Je suis tout à fait parfaitement d'accord avec ce nouveau code.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez de bien dans ce code?
Comme l'a si bien dit le président, une loi, c'est avant tout la cohésion sociale. Il faut l'adhésion de la majorité de la population. Le code a été renvoyé à une relecture, c'est une très bonne chose. Ça permettra aux uns et aux autres de s'imprégner encore davantage et de savoir réellement ce qui se trouve dans le code. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas réellement compris ce qui se trouve dans le nouveau code.
Alors vous nous dites, le président a bien fait de le renvoyer en deuxième lecture, mais les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans ce code. Vous, apparemment, vous êtes favorable à ce code. Qu'est-ce que vous trouvez positif dans ce code? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos concitoyens pour leur faire comprendre que vous trouvez ça bien?
Par exemple, je parle de la partie de l'héritage, par exemple, pour les enfants naturels. Moi, je trouve vraiment illogique de punir les enfants pour les actes commis par leurs parents. Un enfant naturel n'a rien à voir, il n'a pas désiré d'être un enfant naturel. Vous me comprenez bien? Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire une différenciation entre un enfant naturel et un enfant mariage. Donc, les enfants naturels et les enfants nés dans un mariage doivent avoir les mêmes droits dans l'héritage de leurs parents. Si le père reconnaît son enfant, il n'y a plus de problème. Et puis, il faut que les gens comprennent aussi que nous sommes dans une république laïque. Donc, les lois doivent être laïques. À libre maintenant, celui qui veut appliquer sa religion, c'est lui de faire sa religion dans sa famille.
Et concernant justement le mariage religieux, certains souhaitent que le mariage religieux soit reconnu. Que dites-vous à ce sujet-là?
Parce que le vrai problème maintenant, il y a plein de mosquées au Mali qui ne sont même pas reconnues par certaines associations musulmanes. Quelle mosquée sera capable de faire un mandat, quelle mosquée ne sera pas. C'est là le problème. C'est là le problème. On ne peut pas faire un mandat religieux. Le mandat religieux, tout comme fait au Mali, au Gédé.